très peu de gens qui sont éligibles à ça, etc., etc. Donc là, on sent bien que on a ouvert une porte qui ensuite, on va décaler la fenêtre d'Overton, en fait. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, non, mais il n'y a pas de délit d'entrave pour les psychologues et les psychiatres, il n'y a pas, etc., etc. Et puis, les gens vont se dire, non, mais il est pas mal ce texte parce que quand même, on n'ira pas plus loin. Et en fait, la fenêtre d'Overton, c'est, pour les auditeurs d'Europe 1 qui n'ont jamais entendu ce terme, c'est modifier le cadre d'un débat en s'appuyant sur le « non mais quand même ». C'est-à-dire que de proche en proche, on va rendre acceptables des choses qui étaient inimaginables.
Et là, en l'occurrence, j'ai vraiment étudié tous les textes des quelques pays qui ont légalisé. Et finalement, la France, le gouvernement, a pris le pire dans chaque pays pour faire cette proposition de loi. Et avec, une légèreté très, très forte. Et on peut penser que, même si on estime, même si le gouvernement prétend aujourd'hui qu'il y a des garde-fous, que ceci saute très vite. Il faut rappeler qu'au Québec, ça a été légalisé il y a 8 ans maintenant, et qu'on est maintenant à 7,9% de la population qui se fait euthanasier chaque année. Donc ça va très vite. Et 27%...
Ils sont en train de discuter de la possibilité d'euthanasie pour les mineurs, hein, sans l'accord des parents.
Oui, pour les mineurs et aussi pour les personnes, notamment, qui souffrent de démence. Et donc, ça montre qu'une fois que cette digue est rompue, une fois que la ligne rouge est franchie, les mentalités peuvent évoluer très vite. Par exemple, au Canada, il y a un sondage très intéressant qui montre que pour 27% des personnes interrogées, le fait d'être SDF ou le fait d'être pauvre serait devrait être un motif suffisant pour obtenir l'euthanasie. Donc on voit bien cette forme de dystopie qui est qu'à partir du moment où on s'habitue à quelque chose, à partir du moment où on a franchi la ligne rouge, et bien finalement on ne revient jamais en arrière et tout ne fait que s'étendre malheureusement vers le pire.
Donc c'est le début en fait de ce texte, hein. C'est ça.
C'est que le début.
C'est ce que vous nous dites. Oui, effectivement, Marie-Estelle Dupont. On va entendre Armel qui est avec nous. Bonjour Armel.
Oui, bonjour.
Vous avez 56 ans, vous nous appelez de Lyon.
Oui. D'abord, merci pour votre émission, c'est super Marie-Estelle. Heureusement que vous étiez là pendant le Covid, sinon on serait tous jetés par la fenêtre.
Merci beaucoup, Armel.
Ouais. Écoutez, moi je parle en connaissance de cause parce que j'ai un frère qui a la maladie de Charcot. Il a 59 ans et il a la maladie de Charcot depuis 6 ans. D'abord, ce que je voulais dire avant, c'est que parler d'euthanasie et de suicide assisté quand on a une telle crise de la médecine et de la santé en France, qu'on nous avait promis une loi grand âge, qu'on a renoncé et qu'on nous promet depuis 10 ans des soins palliatifs, alors qu'il y a toujours un département sur deux qui n'a pas de soins palliatifs, je trouve que c'est totalement indécent. Ça, je trouve ça totalement indécent. Voilà. Et entre parenthèses, j'ai un fils qui est pompier de Paris, qui passe son temps à sauver des gens. Si un jour on l'appelle et qu'on lui dit il y a une dame au 5e étage qui va sauter par la fenêtre, on va lui dire quoi ? Écoutez, laissez-la tranquille, elle a envie de se suicider et n'allez pas la chercher. Donc ça, je trouve ça absolument honteux et dégueulasse. Donc pour en revenir juste à mon frère, qui a 59 ans, hein, donc il est jeune, il a la maladie de Charcot depuis 6 ans, il est plus chez lui, parce qu'en fait, la médecine, le gouvernement, enfin tout ce qui est mis en place n'a pas permis en fait qu'il puisse rester chez lui avec son épouse, parce que c'est beaucoup trop lourd et que ma belle-sœur ne peut plus, enfin elle peut pas le porter, etc. Et même les infirmières, elles ont plus le temps de venir parce qu'en fait les soins sont très importants. Donc ma belle-sœur aurait voulu que mon frère puisse rester et il n'a pas pu rester. Donc ça fait 2 ans qu'il est dans une maison qui est semi-médicale et puis un peu EHPAD. Mais du coup, il est vraiment le plus jeune. Je trouve ça dégueulasse qu'on discrimine les gens qui ont la maladie de Charcot parce que on dit que c'est des gens qui sont éligibles à l'aide à mourir, enfin à l'euthanasie, alors qu'en fait, moi je peux vous le dire, mon frère, il a pas du tout envie de mourir et il est pourtant très très handicapé. Je pense qu'au niveau au niveau de la douleur, il est très très bien pris en charge et il n'a pas de douleur physique. En revanche, je pense que la douleur psychologique est très très importante. Donc comment on va faire pour dire la douleur physique pour moi la douleur physique peut être égale à la douleur psychologique. Donc si psychologiquement il est en difficulté, alors pourquoi demanderait-il pas qu'on l'euthanasie ? Et puis en fait ce que je voulais vous dire c'est que ce qui est hyper important et c'est alors déjà je pose la question au monsieur qui est avec vous, une personne qui voudrait être en soins palliatifs, qui n'a pas de soins palliatifs dans sa région, qu'est-ce qui va lui rester? C'est-à-dire si elle souffre mais qu'elle a pas de soins palliatifs, qu'est-ce qui va lui rester? On va lui proposer l'euthanasie. Ça, je trouve ça dégueulasse. Donc ça veut dire qu'on privilégie la mort plutôt que la vie. Et puis la dernière chose, c'est que quand vous êtes entourée. Je peux vous dire que mon frère, c'était un grand sportif, etc. Donc, quand vous êtes entourée, quand votre femme... Alors, il a une femme, il a de la chance. Il y en a qui n'ont pas de femme. Mais il a des enfants, il a des frères et sœurs, etc. Il a une équipe soignante qui est aux petits soins. Parce que je peux vous dire, quand vous avez la maladie de Charcot, vous avez intérêt à avoir une grande humilité. Parce que quand il faut vous changer, quand il faut... Voilà, tout ce que vous faisiez avant et que vous ne pouvez plus faire, vous avez intérêt à être très humble. Et quand vous avez une équipe soignante qui est géniale, qui est aux petits soins, qui est à votre écoute et qui vous dit que vous avez du prix à ses yeux, mais en fait vous n'avez pas du tout envie de mourir, vous avez au contraire envie de vivre jusqu'au bout, accompagné des gens que vous aimez. Et en fait, c'est tellement facile de dire ah, je veux plus vivre parce que j'en ai marre, parce que je souffre, etc. Mais bonté de bois, la société elle est là. Enfin, la fraternité, ça existe. C'est-à-dire que quand vous entourez les gens dans les soins palliatifs, les gens qui sont des bénévoles, etc., mais les gens, ils n'ont pas envie de mourir, en fait. Ils ont juste envie d'être accompagnés jusqu'au bout. Et en fait, mon frère, je pense que quand ce sera le moment, et je pense qu'il a déjà vu ça avec sa femme, de ce qu'il voulait, qui veut pas qu'on s'acharne sur lui, mais qui veut pas qu'on l'euthanasie, et ben en fait non, mais en fait les gens ils veulent pas mourir, ils veulent juste pas souffrir. Donc la société elle doit être là pour les aider, pour les entourer. Et je connais personne qui a envie de mourir. On a envie de mourir quand on est seul, quand on a personne. Mais bonté de bois, mais ce gouvernement il aura fait jusqu'au bout. On aura eu l'avortement dans la Constitution et maintenant on aura la mort programmé, mais c'est une honte, je vous le dis. Et là, je pars pour aller voir mon frère, mais s'il entendait ça, mais c'est ça en fait qui rend hyper triste. C'est qu'on veuille nous supprimer, qu'on veuille supprimer certaines personnes et qu'on ne raconte pas qu'il n'y a pas de problème économique. Ça, je ne le crois pas du tout, parce que vu l'état du pays, il y a forcément à un moment donné une histoire économique. Et effectivement, je pense que mon frère, il coûte cher, même si ma belle-sœur, même s'il paye tous les mois. Mais c'est une honte en fait. Ça veut dire qu'on prend plus soin des gens. On prend plus soin des gens et ça c'est affreux. Et je peux vous dire que c'est hyper dur. Et pour ma belle-sœur, c'est dur d'entendre parler d'euthanasie parce que en fait c'est pas ce qu'on veut. On veut pas l'euthanasie. On veut pas se débarrasser des gens. On veut justement être avec eux. Et mon frère est malade depuis 6 ans. Donc je pense que si la loi était passée, il serait peut-être déjà mort. On aurait très bien pu lui proposer. Bah oui, vous en avez encore. Mais pas du tout. En fait, si ça se trouve, il va encore vivre 5 ans. On ne sait pas. Et il est heureux, il sourit, bonté de bois. Donc arrêtons tout ça. Enfin, c'est affreux. Et je vous le dis, Macron, il aura tout détruit. Il aura tout détruit dans ses 8 ans. Tout
oui, ce que
détruit.
Vous dites, c'est que votre belle-sœur, elle porte à bout de bras une situation qui est évidemment très douloureuse pour leur couple et qu'elle le porte avec cette énergie. Immense de l'amour et qu'elle entend la société lui renvoyer en écho, mais tu t'occupes corps et âme d'une demi-vie, d'une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue.
Mais oui, et
c'est ça qui est d'une violence psychique incroyable.
Je peux vous dire que cette vie, elle vaut vraiment la peine. Moi, j'ai jamais vu mon frère autant me sourire. Je n'ai jamais vu ça. Sa femme est super, elle est là tous les jours. Enfin. Et je peux vous dire que le sourire, mais j'avais jamais vu mon frère sourire comme ça. Et en fait, on a encore tellement de choses à se dire, tellement de choses à parler, peut-être à se pardonner, peut-être à, parce que voilà, on a vécu des choses ensemble. Mais c'est en fait vouloir abréger. En fait, ils veulent pas abréger la souffrance, ils veulent juste abréger la vie pour se débarrasser des gens. Et ça, je trouve ça horrible.
Ah, mais de toute façon, c'est pas pour les autres, hein, c'est pour leur confort à eux.
Et l'équipe soignante est vraiment mais extraordinaire. Mais je n'ai jamais vu ça. C'est quelque chose de très 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 beau. Et en fait, c'est tellement précieux, cette vie. Elle est tellement précieuse. Pourquoi vouloir l'abréger? Et en fait. En fait, les gens veulent pas mourir. Ils veulent pas souffrir. Mais mon frère, il ne souffre pas. Donc, bien sûr que psychologiquement, il souffre. Mais quand vous voyez que, en fait, tout ce qu'on vous donne est beaucoup plus fort que votre solitude, votre enfermement, etc. Mais en fait, vous avez pas envie de mourir. Vous avez envie d'aller jusqu'au bout. Et bien sûr, mourir sans souffrance, mais la médecine, elle sait faire ça. Je veux dire, la loi Claeys-Leonetti, oui. Elle est pas là pour... la sédation profonde et continue jusqu'au décès, elle existe, mais elle n'est pas un meurtre, elle n'est pas tuée volontairement, elle est juste sur la fin, les quelques dernières heures, pour être sûr que la personne ne souffre pas, mais c'est pas ça qu'on va voter. C'est pas ça qu'on va voter. Non, c'est affreux. Je vous dis, c'est épouvantable et vraiment, je suis triste. Je suis triste. Je suis triste parce que, comme vous le disiez, ça ne s'arrêtera pas à la toute fin de vie, toute fin de vie. Et quand vous avez la maladie de Charcot depuis 6 ans, mais je me dis, mais quel courage, mais mon frère, mais je me dis, mais quel courage, quelle envie de vivre, c'est incroyable. C'est incroyable.
Et je pense
que aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'on a en France, qu'on parle d'euthanasie et de suicide. Et moi, quand je vois mon fils qui sauve des vies toute la journée, qui est pompier de Paris, mais qui vont ramasser des clochards qui sont tombés, etc. Mais en fait, le soin, il est là pour plus de vie.
Oui, alors vous savez ce que disaient déjà les philosophes grecs et les romains, hein, c'est que plus un empire touche à sa fin, plus ses lois sont folles. C'est-à-dire que c'est aussi, mettre l'accent là-dessus, c'est aussi un moyen d'escamoter le bilan désastreux de la France aujourd'hui, je crois. Mais ce qui est très important, c'est de souligner, enfin, le témoignage bouleversant d'Armel me fait penser à un élément dans le texte de loi, c'est que ce sera remboursé par la Sécurité sociale. Et alors là, je trouve qu'il y a quelque chose de symbolique et pas seulement symbolique, de très important, c'est-à-dire que vous allez tous participer, je vais participer, à mon corps défendant, par mes cotisations, à financer des suicides. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas d'accord aura peut-être sur la conscience la mort d'un inconnu. Parce que le remboursement par la Sécurité sociale, non pas d'un soin, je vous signale qu'on ne rembourse pas certains traitements sous prétexte que ce ne sont pas des molécules. Hein. Donc le remboursement de la Sécurité sociale, il n'est pas automatique pour tout. Le remboursement par la Sécurité sociale de l'aide médicale à mourir, il veut dire que chaque citoyen financera la mort d'autres citoyens, même si, en son âme et conscience, il n'est pas d'accord avec ça. Et qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Frémont, et peut-être Armel, si elle est encore avec nous.
Je peux vous dire que, notamment les appareils pour les personnes souffrant de maladie de Charcot ne sont pas remboursés à 100%, alors que l'injection létale le sera. Et effectivement, merci beaucoup, madame, pour votre témoignage. Je trouve que ça en dit long sur le message collectif que la société renvoie. Aujourd'hui, la loi renvoie ce message de « quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, on sera là pour vous », soit par les soignants, soit par l'intermédiaire des proches, qui sont admirables de dévouement. Mais cette proposition de loi Falorni vient dire exactement l'inverse et finalement, votre vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et si vous êtes vulnérable, si vous êtes une personne handicapée ou âgée, finalement, pour le bien-être collectif, c'est mieux que vous disparaissiez. Et donc, on est vraiment là dans une loi de transgression. Et ce qu'on voit, c'est que partout ailleurs, ce nouveau droit, parce que ça serait un droit, devient finalement une injonction à mourir, notamment pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, pour toutes ces personnes qui sont éligibles à la mort, qu'on risque de pousser un peu trop vite vers la sortie. Et juste un petit mot sur ce que vous disiez, sur l'offre de soins en France. Quand on connaît l'état de la psychiatrie en France, quand on connaît l'état des soins palliatifs aujourd'hui, 500 personnes tous les jours meurent sans avoir eu accès aux soins palliatifs auxquels elles étaient éligibles. Quand on sait qu'il faut plus d'un an et demi d'attente pour avoir accès à un centre antidouleur, alors que cette loi prévoira d'obtenir la mort en 48 heures, on se rend bien compte qu'on est là sur une forme d'humanisme totalement renversée. C'est-à-dire que sous couvert de compassion, on organise l'élimination des plus faibles.
Armel.
Ouais, si je peux dire un dernier mot.
Oui.
En fait, pour moi, la personne fragile est vraiment celle qui doit être considérée le plus, c'est-à-dire dire à ces personnes que malgré en fait leur fragilité, ce sont des personnes qui sont utiles. Et que dans cette société un peu individualiste, on pousse vraiment à l'exclusion des plus fragiles, alors qu'en fait, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. C'est que si on dit aux personnes que, en fait, ils ont des fragilités, mais qu'en fait, ils ont du prix à nos yeux et que en fait, ils ont encore quelque chose à dire dans ce monde, et ben en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas leur dire, parce que vous avez la maladie de Charcot, donc vous êtes, c'est bientôt fini pour vous, donc allez, on peut en finir.
C'est surtout qu'on nous bassine avec l'inclusion toute la journée.
Je vais vous dire, mais mon frère, il a des choses à dire, et même s'il parle pas, il écrit encore un petit peu sur son téléphone, mais moi, il m'envoie des messages, il me dit, Armel, quand est-ce est-ce que tu viens ? Enfin, mais on doit prendre soin de ces gens. On doit, au contraire, enfin, c'est notre priorité.
Non, mais surtout la définition de l'être, c'est justement que l'être ne se réduit pas au faire. On voit bien comme un grand-père qui ne travaille plus a de choses à transmettre à ses petits-enfants par la parole et par la tendresse. Donc, il est évident que la valeur de la vie ne se réduit pas au faire. F-A-I-R-E. Merci Armel, et ben vous embrassez votre frère alors, puisque vous allez le voir.
C'est très gentil. Merci, au revoir.
C'était « Et si on en parlait ?» avec Marie-Estelle Dupont et Romain Desarbres, que vous retrouverez aujourd'hui mardi entre 15h et 16h sur Europe 1 avec un nouveau thème « Agriculteur, l'ambivalence française » avec leur invité Nicolas Chaban, fondateur de « C'est qui le patron ?». Donc si vous souhaitez réagir ou témoigner, n'hésitez pas à contacter l'équipe de l'émission en envoyant un courriel à Et si on en parlait, tout attaché, @europe1.fr, ou en laissant un message vocal avec vos coordonnées, pour qu'on puisse vous rappeler, au 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. Musique à présent avec le nouveau Stéphane Escher, ça s'appelle Sauvage Continent, et juste après la libre antenne avec des témoignages à redécouvrir au micro de Roland Pérez et Valérie Darmon.
Mais comment deviner, comment savoir quoi faire? Quelle grimace inventée, quel fichu inventeur? Mais comment deviner le mal qu'on peut se faire? Quel feu avait couvert? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? Quel terrible univers? Qu'avais-tu découvert? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? Comment deviner qui ira en enfer? Ou qui paiera le prix, qui paiera le plus cher? C'est la mélancolie, les avis diffèrent. Certains voient tout en gris, certains deviennent amers. Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? Quel terrible univers, qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? Mais comment oublier, on éteint à la lumière qui un jour brille, on ne peut rien y faire. Mais comment deviner que nous serions en guerre, qu'il faudrait se quitter, ne plus revenir en arrière? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? Quel terrible univers? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent?
L'amour, ses non-dits, ses incompréhensions, c'est peut-être la chanson la plus mélancolique de l'album Poussière d'or de Stéphane Escher, album sorti en novembre dernier, et on vient d'en écouter un extrait, Sauvage Continent, une nouveauté Europe 1. Allez, c'est l'heure maintenant de la Libre Antenne. On aime bien réécouter quelques-uns de vos témoignages. La Libre Antenne, c'est tous les soirs de 22h30 à 1h, sur Europe 1 donc, avec Roland Pérez du lundi au jeudi et Valérie Darmon du vendredi au dimanche.
Bonsoir Camille.
Bonsoir Valérie.
Merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 pour nous parler de quoi ?
Merci à vous.
Avec plaisir, avec plaisir. Dites-moi de quoi vous voulez nous parler, Camille, ce soir.
Écoutez, je voulais vous dire d'abord une chose. Vous avez la même voix que Sana.
Ah, que Sana, oui, c'est vrai. Ah, on a un peu les mêmes tessitures de voix, effectivement.
Oui.
Vous êtes déjà passée avec Sana, peut-être, alors ?
Oui, tout à fait, oui.
D'accord. Bon.
Adorable. Okay.
Oui, on est une équipe sympa quand même. Hein. D'abord sur Europe 1, on est une équipe sympa. Oui. C'est une grande famille. Et puis à la Libre Antenne, on est quand même voilà. En tout cas, on s'entend tous très bien et on est tous là pour vous, chers auditeurs, parce que je ne le répéterai jamais assez, c'est vous qui faites l'émission.
Mais c'est vous aussi qui faites l'émission.
Oui, mais sans vous, on n'est pas grand-chose. On va quand même le redire et le répéter, d'autant que c'est une émission de solidarité et que c'est vos expériences qui servent aux autres aussi. Nous ne sommes que des passeurs. Et de toute façon, sur cette terre, nous ne sommes que des passeurs.
Oui, des passeuses.
Et des passeuses, évidemment. Alors, je vous écoute, Camille.
Eh bien, écoutez, donc moi, ça va. Je voulais parler de ma fille.
Oui. Vous avez quel âge déjà, Camille ? Vous avez une voix très jeune.
J'ai 55 ans.
55 ans.
Ah, j'ai une voix très jeune, mais j'ai 55 ans.
Oui, c'est jeune, 55 ans aujourd'hui. Hein.
Oui,
Et puis on le dit souvent, c'est qu'un chiffre sur un papier. Ça dépend comment on se vit.
Moi, je suis jeune d'esprit. Voilà.
Ben, c'est important.
Quand on est jeune d'esprit, on reste jeune.
Et vous vivez dans quelle région, Camille ?
Dans le Cher.
À Dampierre, en région parisienne ?
Dans le Cher.
Ah, dans le Cher, d'accord. Dans le
oui,
Cher.
Malheureusement, j'aimerais bien habiter à Paris, parce que j'ai déjà habité Paris, mais j'habite dans le Cher, là où je suis née.
Et vous travaillez encore ?
Non, pas du tout.
Non.
Non, je suis à l'MDPH.
Ah. Quel est votre parcours de vie, Camille ?
Ben écoutez, j'étais graphiste, peintre, dessinatrice, illustratrice, et puis maintenant, bon ben voilà, avec un parcours de SCF, je suis plus trop rien, quoi, on va dire.
Un parcours de SDF, comment vous vous êtes retrouvée à la rue, Camille, et à quelle période de votre vie ?
Ben écoutez, ça fait 8 ans que je suis SDF. Pas 8-9 ans.
Vous l'êtes toujours aujourd'hui ?
Non.
Ah,
non.
Si vous parlez au présent, c'est pour ça que je vous posais la question.
Oui. Mais non, je suis plus SDF, heureusement, puisque j'ai été un petit peu agressée. On m'a cassé les dents aussi, je ne l'avais pas dit, ça.
Oui, dans la rue ?
Oui.
Oui, c'est la dure loi. Alors, déjà, dure loi pour les femmes qui sont dans la rue. Hein.
Ah oui. Oui, mais même pas celles qui sont dans la rue, celles qui sont avec soi-disant des maris ou des compagnons et qui les exterminent facilement. Hein.
Oui.
Comment on en a parlé de ça.
Beaucoup. Et on n'en parlera jamais assez.
C'est pour ça que je voulais en parler.
Comment vous vous êtes retrouvée à la rue, Camille ?
Ben écoutez, moi j'habitais une maison, donc il y a le père de ma fille qui m'envoyait de l'argent. Après, ils s'en sont rendus compte, ils m'ont piqué l'argent, et puis moi je ne pouvais pas subvenir au truc. Pourtant, alors moi je n'ai pas compris. Parce que. Ah, je voulais dire quand même. Hein. J'étais au Crédit Agricole, je faisais mon loyer était ponctionné sur ma
MDPH.
Non. Sur mon argent sur le compte du Crédit Agricole.
Oui.
Et ils ont essayé de me foutre à la rue en plein hiver, quoi.
Les propriétaires. Mais pourquoi ils vous ont voulu vous expulser, les propriétaires ?
Écoutez,
parce que vous ne payez pas le loyer ? Ou c'était un virement automatique ? C'était un virement automatique ?
Oui. C'était un HLM.
Ah, en plus, c'était un HLM.
Donc, c'était un HLM.
Donc un HLM avec un virement automatique. Et il y avait de l'argent sur le compte.
Ah oui.
Donc pour quelle raison ? D'abord, ils ne sont pas dans leur droit, déjà d'un.
Parce que c'est des cons. Non. Mais
vous avez été voir l'assistante sociale de la mairie de votre ville ?
Même pas. Je me suis sauvée.
Ah, vous vous êtes sauvée. Parce que quand vous étiez plus jeune, vous avez une enfance difficile, Camille ?
Non, ma mère m'a toujours protégée. Elle a l'EHPAD de Meun sur Yèvre. Ma mère m'a toujours protégée. Bon, j'ai eu des problèmes psychiatriques. Mais je comprends pas. Je comprends pas certaines choses et déjà des fois je veux pas les comprendre.
Mais pourquoi je vous pose cette question de votre enfance? Parce que vous me dites, moi je me suis sauvée. Vous n'avez même pas essayé de demander votre dû et de résister. C'est pourquoi je vous posais la question.
Oui. J'étais un peu bête à l'époque.
C'est pas forcément de la bêtise, Camille. Je vous trouve un peu dure avec vous-même. C'est peut-être juste parce qu'il y avait des blessures d'enfance qui faisaient que vous ne vous sentiez pas autorisée à vous défendre.
La blessure de mon père est mort, j'avais 23 ans, j'ai fait une tentative de suicide à ce moment-là, et c'est là que les problèmes psychiatriques sont arrivés, et moi j'étais à Paris à l'époque, mais voilà.
C'est à ce moment de votre vie que vous étiez graphiste ?
Ah, j'ai basculé carrément, ouais.
Vous étiez très proche de votre père ?
Pas vraiment. Mon père me passait tout, mais il a été très méchant avec ma mère. Plus que méchant, il la battait. J'avais 3 ans et demi, ma sœur 4 ans plus que moi. Ma mère a été voir une avocate, elle a dit « Partez avec vos enfants, laissez la maison. Parce qu'il était très très violent, il avait fait la guerre d'Algérie. La guerre du Vietnam aussi, je crois.
Il était militaire, votre père ? Il était militaire de carrière ?
Oui. Non, il n'était pas militaire. Il était engagé et il a fait des conneries. Hein.
Donc un père violent ?
Très violent, oui.
Mais pas avec vous ?
Ah si ?
Ah, avec vous aussi, si. Voilà.
Avec
d'accord,
moi aussi.
D'accord.
Moi, à 3 ans, il me donnait des coups de fourchette sur la table.
Ah oui. Donc voilà. Ah, oui, donc oui, enfance, oui. Enfance.
Et il est mort à 49 ans. Alors, je vais pas lui perdre son âme, mais il a été très violent avec ma mère.
Oui, ce qui explique que vous avez eu peur des propriétaires dès qu'ils ont commencé à être un peu dominants. En vous expulsant, vous n'avez pas eu la force intérieure de vous défendre.
Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est à peu près ça, ouais.
Donc, au moment où votre papa décède, les problèmes psychiatriques commencent.
Ah oui, ils ont commencé, ouais. J'ai fait une tentative de suicide, je me suis coupé les veines, j'étais à Paris. Les pompiers, j'ai appelé une copine, j'ai fait une connerie, je me suis coupé les veines. Les pompiers sont arrivés, ils disent non, ils disent ça va aller, allez faire un truc de un truc bizarre. Et mais c'était pas un truc si bizarre. J'ai fait la grève de la faim aussi. Enfin, c'est pas la grève de la faim, vous savez.
Vous êtes tombé dans l'anorexie, vous voulez dire? Ah, le jeûne, non?
J'ai été anorexique, oui.
Est-ce que c'est la mort de votre père qui a déclenché cette envie de se suicider, Camille?
Complètement. Ah oui. Ça, c'est vrai. J'ai fait le carême. Donc, il faut aller faire une grève de la faim, mais...
Un jeûne, oui. En tout cas, on ne mange pas gras. On ne mange pas gras.
Non, mais pendant un mois, je n'ai pas mangé.
Je ne crois pas que le carême, ce soit se priver de nourriture. Hein.
Non, ce n'est pas le carême, mais je sais plus ce que c'est un truc comme ça.
Et vous n'avez pas bu non plus? Parce qu'un jeûne, à la limite,
non,
bon, encadré...
Non, je ne buvais pas du tout à l'époque.
Ah oui, vous êtes mise en danger. Vous vous êtes mise vraiment en danger, Camille.
Ah oui, je me suis mis en danger. Je suis arrivée à 41 kilos. Hein.
Mais comment vous expliquez le fait qu'à ce moment-là, en plus de la tentative de suicide, vous faites le carême de manière à faire un jeûne hydrique et un jeûne donc évidemment solide.
Oui, c'est ça que je cherchais le mot, le jeûne.
Oui, mais un mois, c'est pas du jeûne là. Là,
c'est
vraiment en danger. Non, normalement, on boit déjà. On boit l'eau, on boit des bouillons, on boit des soupes.
Oui,
et surtout...
mais je mangeais, mais j'ai fait la grève vraiment. Mais par contre, je fumais.
Oui.
Voilà.
Mais vous n'étiez pas encadrée. Vous n'étiez pas encadrée.
Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'habitais dans le 17e arrondissement. Je travaillais dans une boîte de nuit qui s'appelait L'Entracte. Et d'ailleurs, je vais vous faire une petite parenthèse, c'est que j'ai travaillé 3 semaines dans une boîte de nuit, donc Boulevard Poissonnière. Et donc, je suis tombée malade. Et j'étais très appréciée par cette boîte de nuit. Moi, je m'amusais bien. Je ne buvais pas du tout. Je buvais du coca. Je buvais peut-être un verre par soirée. Et après, je suis revenue, après être malade, et la nana qui me tenait la boîte de nuit, L'Entracte, elle m'a dit « Oh là là !» Elle m'a regardée avec des yeux ronds. Elle m'a dit « On m'a dit que t'étais morte. » Et donc, j'étais pas morte. J'avais eu un accident de moto, mais j'étais pas morte. Et donc, c'est incroyable.
Et vous faisiez quoi dans la boîte de nuit comme travail ?
Bah, j'étais Madame Pipi.
D'accord.
C'est-à-dire que je surveillais les toilettes pour voir s'il n'y avait pas de drogue, etc. Comme je n'étais pas payée, j'achetais des bonbons, je faisais des 4 quarts avec du chocolat dessus.
Vous nourrissiez comme ça ? Mais vous étiez payée au pourboire ?
Non, je me payais pour des pourboires. Ouais.
Ah oui, vous étiez payée au pourboire.
Oui.
D'accord.
Mais ça m'a. Je l'ai fait 3 mois, et puis après, je suis partie d'un coup, à l'époque où mon père est mort, et c'est qu'après que je suis revenue, elle m'a dit l'atlantière. Enfin bon. Elle m'avait dit oh là là, bon.
Et comment vous expliquez le fait que ce soit la mort de votre père qui ait tout déclenché chez vous, qui ait déclenché cette envie de mourir, déjà d'une part ? Ce jeune qui n'avait pas tellement de sens quand il est fait comme ça.
Non. Alors là, j'ai pas les réponses. Pourtant, j'ai fait 12 ans de psychothérapie. Vous voyez ?
Oui.
Comme quoi ça sert. Mais bon, maintenant, je vais bien, mais j'ai pas répondu à toutes mes questions.
Et qu'est-ce qu'ils ont diagnostiqué à l'hôpital ? Parce que vous dites les ennuis psychiatriques ont commencé à ce moment-là. Il y a eu un diagnostic de posé ?
Alors, ils trouvaient pas ce que j'avais. Alors, ils n'ont jamais trouvé plus ou moins ce que j'avais. Je crois que peut-être que j'étais à l'époque bipolaire, ou peut-être schizophrène, mais moi j'étais à Esquirol, hein, Hélène, Camille, et donc ils n'ont pas trouvé ce que j'avais.
Oui, mais vous me dites à l'époque, quand on est diagnostiqué schizophrène ou bipolaire, c'est pas à l'époque en fait. On l'est et ensuite
non,
on stabilise la maladie.
Ce que j'avais.
D'accord,
mais
ils vous ont donné des médicaments tout de même.
Voilà, et donc, je me soigne encore.
Ah, donc vous continuez de prendre anxiolytiques, antidépresseurs ?
Ah non, pas du tout. Non, je prends du
lithium ?
Oui, alors là j'en ai pris. Alors là, il fallait pas en prendre autant que ça parce qu'on devait avoir. Moi, j'ai pris du lithium pendant 3 ans et ils ont dit à l'époque qu'il fallait faire une prise de sang tous les 3 mois. Or, j'en ai pas eu et pendant 3 ans, j'ai pris du lithium.
Et vous avez senti une différence dans votre état intérieur ?
Bah, écoutez, oui, ça m'a bien servi. C'est un régulateur de l'humeur. Moi, actuellement, je prends du Risperdal. Il faut que j'aille regarder la boîte.
Du Prozac, ça, peut-être. Du Prozac, non.
Ah non, pas
D'accord.
du tout. Non, okay. non, je ne prends pas de...
D'accord.
Je ne prends pas d'antidépresseur, de l'Abilify.
D'accord. Bon, en tout cas, vous êtes stabilisé aujourd'hui.
C'est un très bon médicament.
Voilà, vous êtes stabilisé aujourd'hui. Est-ce qu'une fois. Alors, combien de temps ça a duré, l'hospitalisation, l'hôpital psychiatrique
À Paris ?
Oui.
À Paris, j'avais une hospitalisation tous les 2 mois, tous les 2 ans. Il m'avait dit vous êtes régulé pour 2 ans. Parce que j'ai pris du Risperdal. Et ça me convenait pas du tout. Et mais maintenant, je prends de l'Abilify. C'est un médicament très très bien. C'est un régulateur d'humeur aussi. Et ça me va très très bien.
Et donc Camille, ensuite vous quittez.
Sauf que bon, ben, je suis un peu dépressif, mais bon, moi je veux pas prendre de. Comment ça s'appelle là, ce que vous avez dit tout à l'heure?
Du Prozac.
Ah oui, oui, il paraît.
Mais bien, donc Camille, revenons à votre histoire. Vous quittez la région parisienne et vous partez dans le Cher, c'est à ce moment-là que vous partez dans le Cher?
Oui, je suis partie dans le Cher parce que j'étais enceinte.
D'accord. Donc vous avez rencontré quelqu'un à Paris?
Oui. Et cette personne m'a dit, faut mieux que tu ailles dans le...
À la campagne? À
Bourges.
Oui.
Et parce que c'est moins cher, et puis voilà.
Donc cette personne est partie avec vous?
Oui.
Et vous avez
mais,
vécu
cette personne... Mais après... Mais ça, je ne veux pas trop en parler. Parce que...
D'accord. Donc, en tout cas, vous vous retrouvez dans le Cher, dans la maison, dont vous êtes expulsée.
Oui.
Quelques temps plus tard.
Oui.
Avec un abus manifeste.
Mais avec mon accord.
Ah, vous êtes expulsée avec votre accord?
Oui.
Ah, parce que tout à l'heure, vous nous avez dit qu'ils vous ont mis dehors.
On m'a mis dehors, mais oui. Alors, déjà, ils n'avaient pas le droit de me virer en hiver. Alors que c'est un HLM. Donc, j'ai pris les devants. Je suis restée. Et puis, après, bon, j'étais restée dans le... C'était une grande maison, pas chère du tout, avec un jardin et tout. Génial. Et au moment où on m'a expulsée, plus ou moins... Et donc, j'ai dit non, attendez, il y a la dame des HLM qui arrive. Sinon, moi, je m'en vais. Et c'est là que je suis partie et que j'ai commencé mon parcours d'asile.
Et là, vous aviez déjà votre fille, hein?
Oui, j'avais ma fille, mais elle n'était plus avec moi.
D'accord. Quel âge elle a, votre fille, aujourd'hui, Camille?
Elle a 16 ans.
16 ans. Et elle vit où?
Elle est dans une famille d'accueil.
Vous la voyez régulièrement?
Non, pas du tout. Non. Donc, moi, je vais vous expliquer quelque chose.
Oui.
Je ne supporte pas à l'ASE.
Oui.
Hein, comme la DAS.
Oui. C'est d'ailleurs, l'ancien nom, c'était la DAS. Aujourd'hui, c'est l'aide sociale à l'enfance. Oui.
Oui, bon, tu parles. Donc, enfin, tu parles, excusez-moi. J'ai téléphoné l'an dernier, au moment de Noël. Je vais les recontacter. Et elle m'a dit, sèchement, la dame, elle m'a dit, de toute façon, pour votre fille, elle n'a plus de mère, elle n'a plus de père. Alors que c'est complètement fou. Donc ça, je ne supporte pas. En plus, elle a été dans une famille d'accueil qui l'a un peu violée.
Hein? Oui, alors on ne viole pas un peu, hein? On viole.
Ouais. Donc, vous voyez ce que je veux dire.
Elle est placée...
C'est pour ça que je préfère pas en parler, parce que ça m'énerve.
Elle est placée à l'ASE depuis combien de temps, votre fille, Camille?
Alors là, moi, je la vois pas depuis l'âge de 7 ans. Elle a 16 ans.
Ah oui.
Hein.
Ah oui. Vous l'avez pas vue depuis l'âge de 7 ans?
Non.
Vous avez demandé à la voir, vous?
Ah oui.
En milieu médiatisé. En milieu médiatisé, bien sûr.
Tout à fait. Rien. Et ça, je trouve ça odieux. Je trouve ça déplorable. Et là, j'ai commencé à pleurer, donc j'ai pas envie d'en parler.
Et son père, il la voit pas non plus?
Son père, non. Son père, il est pas là.
Mais il ne la voit pas non plus?
Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas le savoir.
Mais vous avez été avez pris un avocat, Camille, quand même, à un moment donné. Peut-être commis d'office, peut-être en pro bono, peut-être par l'assistante sociale de votre ville.
Non, mais je pense que là, je vais commencer un petit peu à m'énerver, dans le sens où moi, j'ai tout passé à ma fille. Je ne lui ai jamais fait de mal. Je lui ai donné tout ce qu'il fallait. Et je trouve ça dégueulasse, quoi. Ce qu'on m'a fait, ce qu'on lui a fait, quoi.
qui est-ce qui a décidé de placer votre fille? Ce sont les enseignants qui ont fait un signalement?
Je vais vous lire. Je ne me souviens plus de son prénom ni de son nom, mais ça va me revenir.
On ne donne pas les noms de famille.
Éducateur. Voilà, éducateur qui était un peu pédophile. Voilà. Et donc voilà. Et une fois, c'était prévu que je l'ai au mois de décembre, elle avait 6 ans, elle a fait une crise. Et moi aussi d'ailleurs. Elle a fait une crise, je devais la voir pour... comment il s'appelait ce connard là? Je ne sais plus. Bref, je ne préfère pas dire de nom. Et je vais la voir pour Noël. Il m'a dit, ah non, il l'a emmenée vers le plan d'eau à Bourges. Dégueulasse. Et là, ça a bardé, là.
Et
ça a bardé. Est-ce que ma fille, elle faisait une crise, la pauvre.
Est-ce que vous avez trouvé de l'aide auprès de votre mère ou pas, Camille? Puisque vous m'avez dit, ma mère m'a toujours protégée.
Ma mère, elle est pas d'Amelin. Amelin sur Yèvre. Donc, elle peut rien faire, la pauvre.
Est-ce que vous avez de la famille encore ou pas?
Oui, j'ai ma sœur. Mais elle ne parle pas.
Donc,
elle ne parle pas.
Quand vous vous êtes retrouvée à la rue, Camille, les services sociaux avaient déjà placé votre fille en famille d'accueil ou vous
n'étiez, oui.
C'est ça, hein?
Tout à fait.
Oui, parce que vous ne pouviez pas lui offrir un toit.
Ah bah si, j'avais mon toit. J'avais ma maison. C'est après que j'ai pété les plombs, hein. Parce que j'ai pété les plombs après. Hein. J'ai tout cassé dans la maison, moi.
Ah oui, d'accord.
Ah bah oui.
Parce qu'il vous avait, parce qu'il vous retirait votre fille, en fait. Voilà, c'est la conséquence,
voilà,
en fait.
Parce qu'ils m'ont retiré ma fille, ouais.
Et oui. Et pourquoi à ce moment-là, mais c'est la même chose que quand vous ne vous manifestez pas auprès des propriétaires, vous n'avez pas contacté l'assistante sociale?
Parce que... non, je n'ai pas contacté la... j'étais un peu conne, hein, pour ça. J'étais un peu bête, voilà.
Vous n'arriviez pas à vous défendre, en fait?
Non, j'arrivais pas à me défendre. J'étais révoltée qu'on enlève ma fille, que l'éducateur, c'est un éducateur de merde, hein, pour être poli.
Et vous vous êtes pas rapprochée d'autres parents qui sont dans des situations un peu similaires à la vôtre?
Non.
Vous n'avez rien fait, en fait. Vous étiez complètement désarmée, vous avez laissé faire.
Ça, c'est mon côté très, très lâche de ma part. Mais moi, ce que je n'ai pas supporté l'an dernier, au mois de décembre, elle m'a dit, l'éducatrice de ma fille, elle m'a dit, de toute façon, pour votre fille, elle n'a plus de mère, elle n'a plus de père, alors que son père est encore vivant et que moi, je suis encore vivante.
Mais on vous donne des nouvelles de votre fille. Est-ce qu'on vous donne tout de même des nouvelles de votre fille?
Même pas. Donc là, je vais attaquer le truc. Hein. C'est pas possible. Hein. Mais de toute façon, ma fille, elle a un peu le même tempérament que moi. Elle sait que je lui ai jamais fait de mal, qu'elle a eu tout ce qu'elle voulait, que je l'aime d'une façon comme une maman, quoi. Et donc, quand elle aura 18 ans, elle va tout casser comme moi. Ça, à mon avis, ça sera comme ça que ça passera.
L'idée, c'est qu'elle casse pas tout. L'idée, c'est qu'elle essaye d'aller le mieux possible et qu'elle, peut-être qu'elle vous retrouve.
Bah oui, moi j'aimerais bien la voir, ma fille.
Vous vivez
j'ai
où
essayé encore de...
Vous vivez où, Camille, aujourd'hui?
À Vierzon.
Non, mais je veux dire, vous avez une maison, un appartement, un HLM, vous avez un lieu pour vivre.
J'ai un lieu pour vivre, oui, je peux la recevoir.
C'était ça ma question, effectivement. C'était pouvoir la recevoir.
Bah oui. Oui.
Et qu'est-ce qu'on vous répond quand vous demandez des...
famille, hein.
Qu'est-ce qu'on vous répond, Camille, quand vous demandez des nouvelles? Qu'est-ce que dit l'ASE? Pourquoi elle ne vous donne pas de nouvelles? Elle n'est pas obligée de vous dire où est votre fille, pour peut-être la protéger au nom de la protection, mais au moins vous donner des nouvelles, au moins vous montrer des photos.
Ouais. Voilà, c'est ce que je demande.
Mais qu'est-ce qu'on vous dit pour ne pas faire?
On ne dit rien, parce que je demande rien. Mais c'est de ma faute aussi. Hein. Parce que moi, ça me fait mal. Moi, j'ai pas envie de la... Quand je vais la rencontrer, je vais pleurer. Vous voyez, donc...
Mais c'est pas grave de pleurer, Camille, c'est pas grave de pleurer. Et c'est pas grave non plus de demander. Vous pouvez. Oui, mais ne restez pas dans. Même si vous l'êtes, ne restez pas une victime. Demandez au moins des photos, demandez au moins des nouvelles, demandez. Ça, vous pouvez vous l'autoriser, Camille. J'entends bien que c'est difficile pour vous de demander. Mais là, c'est impératif de le faire, vraiment, Camille.
Puis moi, vous savez, bon, moi, je parle de ma fille, mais je préfère la protéger. C'est pour ça que je préfère pas trop en parler. Mais comme j'aime pas trop parler de ma sœur non plus, parce que ma sœur me manque.
Et parce que ça fait mal au cœur.
Moi, ça fait mal au cœur, ouais. Mais moi, il y a en plus, j'ai eu deux graves accidents qui sont pas des accidents. On m'a foncé dessus, on m'a déglingué la tête parce que j'étais SDF. On m'a roulé sur la jambe. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? J'ai rien fait.
Non, mais je crois que c'est important que vous vous défendiez. On a Cynthia au 739-21 qui dit qu'elle trouve scandaleux toutes ces rétentions d'enfants par l'ASE. Elle dit vous ne devez pas vous laisser maltraiter avec les mots. Vous êtes victime de non-assistance à personne en danger. Courage à vous. C'est ce que dit Cynthia.
Ah, c'est
moi,
gentil.
Moi, vraiment, c'est je gentil. Vous conseille, Camille, d'au moins demander des nouvelles et exiger des photos. Bien sûr qu'ils ne vont pas vous dire sans doute où elle est, etc. Ça fait des années qu'elle ne vous a pas vu. Ils ne vont pas mettre son équilibre morale en danger,
oui.
Donc ça, d'accord. Mais vous êtes sa mère, vous avez le droit d'avoir des photos de votre enfant, vous avez le droit d'avoir de ses nouvelles, vous ne pouvez pas rester comme ça en repli. Prenez votre place, Camille, commencez à prendre votre place, vous irez beaucoup mieux.
Bonsoir Irène.
Bonsoir Roland.
Mais qu'est-ce que je suis content de vous parler, Irène.
je me sens toute bêtasse là après le témoignage si éprouvant de Franck.
Mais c'est tout le sel de la libre antenne, vous savez, on a des témoignages parfois éprouvants, comme vous dites, difficiles, parce que parler de ces enfants qui sont confrontés à l'enfer de la drogue, mais on a affaire à un père, voilà, le message était beau, c'est de ce père qui reste debout, qui veut aujourd'hui se servir de ce qu'il vit avec sa fille pour essayer de faire la prévention, pour réveiller les consciences, à la fois nos consciences et les pouvoirs publics, donc c'est un message fort.
Mais je me sens aussi très gâtée de ne pas avoir connu ce genre de problème mes quatre enfants.
Vos quatre enfants, mais vous aussi, vous avez une histoire très forte. Vous avez une histoire très forte où l'amour quu'on aime tant dans cette libre antenne vous a sauvé l'amour de vos parents et j'imagine après l'amour de votre famille.
Oui, mais vous savez que c'est en ayant vu le film que vous avez souhaité pour honorer votre maman. Que beaucoup de souvenirs ont ressurgi en moi et je suis sortie du cinéma en disant à mon ami, il faut que j'appelle Roland, je ne peux pas rester comme ça.
C'est tellement gentil. Alors vous allez m'expliquer comment vous avez vu le film, parce que vous êtes en déficit, on va dire, un peu visuel.
Ah oui, en grand déficit, et d'ailleurs j'ai déploré le fait qu'il n'y ait pas d'audio description comme dans certains grands cinémas. Autant c'était un cinéma pâté, donc je pensais qu'ils avaient
l'audio description,
qui est une aide extraordinaire.
Surtout vous qui avez, c'est d'autant bien plus sûr. Une aide, d'autant plus vous qui avez vu, vous avez vu jusqu'à votre âge, à l'âge de 12 ans.
Jusqu'à 12 ans, j'avais une vue de pilote.
Oh là là.
Je brodais, puisque pour ma génération, on apprenait à coudre et à broder. Donc j'adorais ça. Mais j'arrive encore à coudre des boutons.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé à 12 ans ? On va commencer par là.
J'ai été opérée d'un kyste au cerveau. Et en me réveillant de l'intervention, alors qu'est-ce qui s'est passé ? On ne le saura jamais. J'ai demandé à avoir mon dossier dans les archives. Je n'ai rien obtenu. Alors, y a-t-il eu une erreur chirurgicale ? On a touché visiblement, on a dû toucher au nerf optique, ce qui a laissé comme une cicatrice sur les nerfs, donc irrattrapable.
Mais c'est, je crois, alors je ne sais pas si j'ai aucune connaissance médicale, mais j'entends parler de ces opérations du cerveau, et je crois que c'est un des risques possibles, je crois, le fait de toucher le nerf optique.
Oui, c'est ça, il valait mieux que je vive, au final.
Bien sûr. Mais vous, à 12 ans, quand vous avez accepté d'être opéré, vous n'aviez que 12 ans, vous avez fait évidemment ce que le médecin préconisait, ce que vos parents souhaitaient évidemment pour vous, et c'était le mieux possible. Mais vous aviez conscience que vous pouviez vous réveiller sans plus jamais voir ?
Aucunement. Non. Pas du tout.
Alors ça a été la panique quand vous vous réveillez, c'est la panique ?
Pas du tout. Parce que je ne m'en suis pas rendu compte sur l'instant, mais j'ai eu une sorte d'acceptation dans la mesure où j'étais en très bonne santé. Je n'avais plus de maux de tête, qui était absolument insupportable. Donc j'avais une délivrance physique.
Et cette délivrance physique vous a permis de ne pas d'accepter, parce qu'on vous a tout de suite dit quand vous vous êtes réveillé que vous êtes plongé dans le noir, vous aviez quelques dixièmes de vue, vous pouvez voir.
J'avais moins d'un dixième.
Oh là là, moins d'un dixième. Mais on vous a pas dit vous n'allez plus voir.
Non, on m'a pas parlé de cette façon. Vous savez, il y a presque 70 ans de tout ça, alors le comportement des médecins n'était pas du tout le même que celui de maintenant.
Oui, on dit presque trop tout à faire peur parfois aux patients. Et donc vos parents sont à vos côtés, vous voyez très peu, vous avez enfin moins mal, vous êtes délivré de ces douleurs que vous aviez.
Mais j'ai voulu beaucoup protéger mes parents. Parce qu'ils étaient dévastés. J'étais la dernière de quatre, très rapprochée, mais quand même la petite dernière. Et ils étaient déjà d'un certain âge. Et je sentais que pour eux, c'était un effondrement. Et qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Et qu'est-ce qu'on va devenir? Et puis, à l'époque, la société était très...
Oui, il y avait les non-voyants et les
voilà,
voyants.
Et puis le regard des gens du quartier. J'étais la petite miraculée, si on peut dire, mais j'étais devenue à part.
Vous étiez devenue handicapée pour certains.
Voilà. Donc, quand ça m'est arrivé, j'étais en cinquième au lycée, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de différence d'établissement entre collège et lycée. Et la personne qui m'a sauvée, c'est la directrice de l'époque, qui a dit à mes parents, mais je la garde.
Ah oui, quelle belle, c'est ce qu'elle
dit. Elle m'a sauvée, cette femme.
Donc elle vous a laissé parmi le monde des voyants et vous avez, vous avez continué à vivre comme si vous n'étiez affecté d'aucun handicap.
Alors c'était difficile aussi parce que j'étais la bête curieuse dans le lycée. Les petites camarades que j'avais quand j'ai été opérée, elles m'ont tourné le dos.
Oh là là, mais quelle violence.
Oui, mais c'est parce que ça faisait peur, je le comprends bien. Elles avaient peur, les gens ne savent plus se situer quand un enfant n'est plus le même.
Oui, mais elles n'ont pas eu tout de suite l'envie de vous aider, de vous accompagner
Non, parce que moi j'ai redoublé et donc mes camarades d'avant ont continué leur scolarité. Donc il y avait une année de décalage. Et elles étaient devenues donc plus grandes, plus intelligentes que moi, enfin en connaissance, voilà. Et donc j'ai redoublé.
Mais en tout cas, pas l'intelligence de cœur, hein, pardon.
Mais je ne sais pas vraiment. Je pense que c'est parce que.
Oui, c'est l'inconnu. L'inconnu fait peur. Vous avez raison, probablement. On leur jette la pierre 70 ans après, comme vous dites, mais l'inconnu fait peur, c'est sûr.
Mais vous savez, même maintenant, je me rends compte, il y a dans la rue les gens qui, d'une manière formidable, quel que soit l'âge, qui viennent vers moi lorsque je m'apprête à traverser un carrefour. Je connais bien mon quartier, je me débrouille. Et je ne refuse jamais l'aide qui m'est proposée. Mais elle vient de partout, l'aide. Mmh. Il y a une grande humanité dans ce monde qui paraît inhumain.
C'est vrai. Et alors, parce que, alors, donc, vous.